Simon Subasio, devait laisser une réputation de doux amoureux du Christ. Il comprenait et interprétait les Écritures sans être passé par les écoles. En attendant, les 10 frères se mirent en route dans des directions différentes. Sans être déçus, comment François pouvait-il jamais les décevoir, leur joie s'en trouvait plus sobre. Les fruits amers ne tardèrent pas. Dans les rues d'Assise, on accueillait ces va-nu-pieds avec des sarcasmes et parfois avec des questions assez impertinentes. « Hier, vous aviez largement de quoi vivre. Et maintenant que vous avez tout vendu, vous venez nous demander du pain ? N'êtes-vous pas fou ?» Il répondait avec douceur, en invoquant l'amour de Dieu et en souhaitant paix et bonheur à tout le monde. Finalement, ils emportaient avec des lazzi quelques croûtons de pain et d'indescriptible rogaton, le rebut dont on ne voulait plus à la cuisine, mais ils s'estimaient comblés parce que la joie qui envahissait l'âme de François habitait aussi la leur. François, du reste, ne cessait de les encourager, car certains, devant l'hostilité du monde, ne pouvaient se retenir de trembler un peu. On les prenait pour des hommes des bois, et les blasphémateurs ricanaient lorsqu'ils parlaient de Dieu. Mais à cela, disait François, il fallait répondre tranquillement en prêchant la pénitence, et ne pas oublier que par eux, le Seigneur lui-même parlait aux méchants et aux orgueilleux. Peu à peu, l'opinion se répandait que ces mendiants n'étaient pas des mendiants comme les autres. Rencontraient-ils sur la route d'autres pauvres plus pauvres qu'eux ? Ils arrachaient alors à leur misérable habit une manche, un grand carré d'étoffe grossière, et s'en défaisaient au nom du Christ afin de venir en aide à cette misère qui surpassait la leur. Ils allaient deux par deux à travers le pays, car c'est ainsi que Jésus avait envoyé ses disciples. À propos des chroniqueurs. Les chroniqueurs se contredisent avec une sorte d'émulation, ou ils abrègent, ou bien parfois allongent indûment leurs récits pour des raisons d'esthétique ou de vraisemblance. Mentir ne les épouvante pas. On peut choisir selon sa sensibilité personnelle. La première entrevue de François et d'Innocent III fournira un excellent exemple de ce que je veux dire. Certains témoins de François ont une méthode différente. Il s'agit de reconnaître un saint. Ils n'hésitent jamais et sont infaillibles. Ce sont les animaux pourchassés qui se réfugient à ses pieds ou dans ses bras parce qu'ils savent que là, la méchanceté des hommes ne les atteindra pas. C'est le lièvre qui se blottit contre François et ne veut plus le quitter. C'est le chevreau qui se précipite vers lui et à qui François fait affectueusement la leçon en lui donnant toutes les instructions nécessaires pour ne pas se laisser prendre. Mais le petit animal ne veut rien savoir et s'attache au pas de son sauveur. Ce sont les oiseaux qui se posent sur lui comme dans les branches d'un arbre protecteur. Ce sont les poissons qui écoutent ses conseils de prudence. Enfin, c'est le fameux loup de Gubbio, converti obéissant, qui renonce à la chair et se fait loup chrétien. Tout cela ne se trompe jamais sur le compte de François. Ils n'ont besoin ni de Celano I, ni de Celano II, ni de Saint Bonaventure, maître en l'art d'arranger un portrait, ni même des trois compagnons, ou de l'honnête anonyme de Pérouse par qui la voix de l'innocent frère Gilles parvient jusqu'à nous par-dessus les siècles bavards. Ni même du seigneur pape qui a connu François et l'a aimé, Grégoire IX, et qui le canonise. Les bêtes sauvages et ses frères très simples n'ont pas attendu pour apprendre ce qu'ils savaient avant tout le monde. Devenu le chef d'une petite troupe qui ne demandait qu'à lui obéir dans l'allégresse, François dut sentir le poids de sa responsabilité. En face des problèmes de la vie, l'énorme confiance de ses disciples lui jetait un défi. Il avait 11 mendiants sur les bras et qui ne savaient même pas leur métier. Il fallait tout leur apprendre. Le vœu de pauvreté absolue n'allait pas sans poser de problème. On ne pouvait compter que sur cette vertu qui restait si souvent abstraite, la charité du prochain. Bien que son assurance demeurât inébranlable, François ne se plongeait pas moins dans la prière pour demander à Dieu ce qu'il voulait de lui et des siens. Un jour qu'il s'était retiré dans la solitude, il connut d'abord la terreur.